Vous écoutez, on lit pour vous.
Espace sécuritaire. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne? Un texte de Paul-André Gauthier, publié le 15 décembre 2025 dans Le Voyageur. Un autre aspect d'un espace sécuritaire est la liberté de ne pas jouer ou de ne pas être soi-même. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes de SLGBTQI+, ressentent la pression de se modérer, d'utiliser différents pronoms, de cacher leurs relations ou de faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas. Un véritable espace sécuritaire soulage cette pression. Quelqu'un peut se présenter vêtu de vêtements qui reflètent qui il est, utiliser le nom qui lui rappelle un chez-soi ou parler ouvertement de quelqu'un qu'il aime. S'il préfère observer tranquillement, c'est aussi bienvenu. Il n'y a pas de scénario, pas besoin de correspondre à l'idée du confort de quelqu'un d'autre. Un espace sécuritaire signifie aussi une sécurité émotionnelle, parfois plus difficile à voir mais profondément ressentie. C'est le genre de pièce où, si quelqu'un partage, il a été mégenré au travail, les autres ne balaient pas ça du revers de la main mais écoutent et comprennent pourquoi c'était important. Ou un jeune qui remet en question son identité peut dire « Je suis encore en train de comprendre ce que je suis » et personne ne le presse ou ne suggère qu'il devrait déjà avoir des réponses. Ces espaces deviennent un terrain plus doux pour les personnes qui peuvent passer leur journée à marcher sur des œufs. Ils permettent des conversations honnêtes, sans craindre que la vulnérabilité ne se retourne contre lui. Un espace sécuritaire pour les personnes de la communauté de SLGBTQI+, est, dans sa forme la plus simple, un endroit où les gens peuvent souffler un peu plus facilement. C'est quand quelqu'un n'a pas à répéter ses mots dans sa tête avant de parler ou à scruter la pièce pour deviner s'il est sécuritaire de mentionner son partenaire ou son identité. Imaginez quelqu'un qui entre dans une pièce et se sent enfin à l'aise parce qu'il n'a plus besoin de s'expliquer. Ce sentiment, ce soulagement silencieux, est souvent ce qu'offre un espace sécuritaire. Dans un monde où beaucoup font encore face au jugement ou à l'incompréhension, avoir un endroit où ils peuvent simplement être eux-mêmes n'est pas un luxe, c'est nécessaire. Parfois, les gens parlent des espaces sécuritaires comme s'ils étaient optionnels, quelque chose de bien à avoir si le temps ou les ressources les permettent. Mais, pour de nombreuses personnes dans la communauté de SLGBTQI+, les espaces sécuritaires ne sont pas seulement utiles, ils préservent la vie. Ce sont des endroits où les gens peuvent enfin respirer après des jours, voire des années, à se retenir fermement. Quand on y pense, tout le monde mérite au moins un endroit où il se sent compris, respecté et accueilli sans condition. C'est pourquoi définir ce qu'est vraiment un espace sécuritaire est important, car cela nous rappelle que l'appartenance ne peut pas être supposée, elle doit être créée avec soin. Surtout, les espaces sécuritaires aident les gens à trouver des liens et une communauté. Parfois, ça peut ressembler à un nouveau venu assis à côté de quelqu'un qui dit doucement « Tu es le bienvenu ici, prends ton temps ». Ou un groupe qui rit d'expériences partagées, qui à l'extérieur de cette pièce pourrait sembler isolante. Ou même la simple prise de conscience qu'il y a d'autres qui comprennent exactement ce qu'ils portent. Ces petits moments créent un sentiment d'appartenance, celui qui rappelle aux gens qu'ils ne sont pas seuls, que leur identité compte, et que le fait d'être pleinement vu peut être guérisseur. Un espace sécuritaire qui ne résout peut-être pas tout, mais il peut offrir la force et la compagnie dont les gens ont besoin pour naviguer dans le monde avec un peu plus de confiance. Aussi, certains pourraient développer des amitiés et gagner des alliés. Dans les milieux de santé, un espace sécuritaire signifie que les personnes de SLGBTQI+, peuvent faire confiance aux personnes qui prennent soin d'elles. Cela signifie qu'un professionnel de la santé ne s'arrête pas avant d'écrire le nom de son partenaire sur un formulaire d'admission ou qu'une personne trans n'évite pas les soins par peur d'être regardée ou mal genrée. Pensez à une clinique où on demande gentiment à quelqu'un quel est le nom et quel prénom aimeriez-vous que nous utilisions. Ou une salle d'attente d'hôpital où le personnel intervient en cas de remarques discriminatoires. Lorsque les équipes de soins comprennent que la dignité fait partie du traitement et non un supplément optionnel, les gens reçoivent de meilleurs soins, posent des questions plus ouvertement et se sentent plus en sécurité pour revenir lorsqu'ils ont besoin d'aide. Être soutenu par des alliés, le respect transmis de façon constante est ce qui rend la guérison possible. En éducation, les espaces sécuritaires permettent aux élèves et au personnel d'apprendre et de grandir sans crainte. Cela peut être une classe où un élève peut parler fièrement de ses deux mères sans entendre de chuchotement, ou un corridor où un élève non-binaire se sent à l'aise de corriger un enseignant qui répond ensuite avec gratitude plutôt qu'inconfort. Des écoles sécuritaires signifient aussi que le personnel intervient rapidement en cas d'intimidation plutôt que d'attendre que les élèves se défendent seuls. Avoir des alliés à l'école. Lorsque l'inclusion devient une partie de la façon dont l'école se perçoit, les élèves de SLGBTQI+ peuvent se concentrer sur l'apprentissage, l'imagination de leur avenir et la construction de leur confiance au lieu d'essayer de ne pas être ciblés. Pas seulement les élèves ou les étudiants, mais aussi des employés de SLGBTQI+ ont besoin de soutien également. Dans les organisations communautaires, les espaces sécuritaires deviennent des piliers d'ancrage. Ce sont les endroits vers lesquels les gens se tournent quand ils ont besoin de connexion sans jugement. Cela pourrait ressembler à un centre communautaire organisant un événement mensuel où les gens peuvent parler d'identité ou de relations dont ils ne peuvent pas parler en toute sécurité ailleurs. Ça pourrait être un groupe de jeunes où quelqu'un dit doucement « Je pense que je suis peut-être queer » et les adultes sourient simplement et disent « Merci de nous faire confiance ». Les organisations communautaires peuvent montrer l'inclusion de façon visible, comme poster des affiches d'affirmation, collaborer avec des groupes de la fierté ou former des bénévoles pour soutenir les gens avec compassion lors des moments difficiles. Avoir des alliés tout autour pour soutenir les personnes de SLGBTQI+. Lorsque ces organisations offrent de l'affirmation plutôt que de l'hésitation, elles deviennent des bouées de sauvetage. En milieu de travail, les espaces sécuritaires aident les employés de SLGBTQI+, à s'épanouir plutôt que de simplement faire face. Imaginez une réunion d'équipe où quelqu'un peut mentionner son partenaire naturellement, de la même façon que les autres sans pose gênante. Ou imaginez un milieu de travail qui ne se contente pas d'exprimer son soutien, mais qui le montre à travers des toilettes tout genre, des options de pronoms sur les badges, ou des superviseurs qui prennent des nouvelles discrètement mais sincèrement. Même quelque chose de modeste, comme un gestionnaire qui dit « Votre sécurité, votre confort comptent pour nous » peut changer toute une culture. Lorsque les employés de SLGBTQI+ savent qu'ils ne perdront pas d'opportunités, de respect ou de sécurité à cause de leur identité, ils peuvent contribuer pleinement et avec confiance, enrichissant ainsi le milieu de travail pour tous. En conclusion, les espaces sécuritaires ne sont pas une question de traitement de faveur. Ils parlent d'équité, d'humanité, de la simple vérité que chacun mérite de se sentir en sécurité dans sa peau. Lorsque nous nous engageons à créer des environnements où les personnes de SLGBTQI+ peuvent respirer, parler, apprendre, travailler et chercher des soins sans peur, nous renforçons nos communautés, nos institutions et notre sentiment partagé de dignité. Un espace sécuritaire, c'est vraiment juste une promesse qui dit « Tu comptes ici, vous êtes les bienvenus ici, tu n'as pas à te cacher ». Et quand cette promesse est tenue, les gens s'épanouissent. Ils deviennent plus eux-mêmes et ce faisant, ils nous aident tous à bâtir des communautés plus plaisantes, plus sages, respectueuses et plus profondément humaines. C'était « Sécuritaire. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie quotidienne ?» Un texte de Paul-André Gauthier, publié le 15 décembre 2025 dans Le Voyageur.
La face cachée de l'autoritarisme au royaume de Donald Trump. Un texte de Fabien Deglise, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir. Le virage à 180 degrés au sein de la justice américaine est plus que remarquable. Le 14 novembre 2025, Donald Trump a accordé un pardon présidentiel à Joseph Schwartz, magnat des maisons de retraite aux États-Unis, condamné à 3 ans de prison pour avoir orchestré une vaste fraude et détroussé l'État américain de 38 millions de dollars. Lors de sa condamnation en avril 2025, la procureure fédérale du New Jersey, Alina Habba, ex-avocate personnelle de Donald Trump, s'était réjoui de cette peine exemplaire en saluant le travail des enquêteurs qui avaient contribué à faire tomber le fraudeur. Mais une campagne de lobbying orchestrée par 2 organisateurs politiques d'extrême droite au plus haut sommet de l'État et des honoraires de 960 000 $ versés par Schwartz ont fini par changer le destin du prisonnier, en lui redonnant sa liberté. Depuis le retour brutal de Donald Trump à la Maison-Blanche, les grâces présidentielles se multiplient à un rythme supérieur à celui qui avait prévalu durant son premier mandat. À ce jour, il en a signé 1600, incluant le pardon massif accordé à 1500 insurgés, condamnés après avoir pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021. C'est 1400 de plus que durant l'ensemble de ses quatre premières années au pouvoir, entre 2017 et 2021. Pour le moment. Mais, sous le nouveau régime du populiste, ces pardons présidentiels semblent également participer à plus qu'un généreux acte de clémence. En marge du grand bruit quotidien que produit la nouvelle présidence du Républicain, ils s'inscrivent aussi dans un vaste projet de rétribution et de corruption dont Donald Trump, sa famille et surtout ses alliés politiques sont les premiers bénéficiaires. Une instrumentalisation de la justice et du pardon qui, d'ordinaire, est l'apanage des régimes autoritaires et corrompus et qui se répand depuis plusieurs mois au sein même de la démocratie américaine. Cela ne rassure pas Jill Hasday, professeur de droit à l'Université du Minnesota. Le pouvoir du président d'accorder des grâces, surtout lorsqu'il est combiné à l'immunité présidentielle contre les poursuites pénales, peut déstabiliser la démocratie et l'état de droit, résume-t-elle en entrevue. Cette immunité a été renforcée par de récentes décisions de la Cour suprême. Cela permet au président d'agir sans crainte de poursuite et de garantir le même privilège à ses alliés. Les controverses se multiplient autour du nouveau cycle de pardon de Donald Trump, dont la mécanique a été confiée en mai dernier à Ed Martin, fidèle parmi les fidèles au sein du mouvement MAGA. Il a été l'un des promoteurs des théories complotistes sur un présumé vol des élections de 2020. Au moment d'entrer en fonction, l'homme a prévenu sur les réseaux sociaux qu'aucun partisan de Trump ne sera laissé pour compte. Clémence et affaires familiales. En octobre 2025, des voix critiques ont accompagné la clémence décrétée par le président à l'endroit de Changpeng Zhao, le milliardaire fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance. L'homme a été condamné en 2024 à 4 mois de prison et à une amende de 50 millions de dollars pour violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent. Plus tôt cette année, Binance a conclu un accord d'investissement de 2 milliards de dollars avec World Liberty Financial, la société de crypto-monnaie de la famille Trump. La corruption du processus de grâce est l'un des aspects les moins visibles, mais non moins importants, de la corruption du ministère de la Justice par Donald Trump, s'inquiétait dans les pages du Guardian récemment Philippe Lacovara, ancien conseiller du procureur spécial durant le scandale du Watergate en 1973. Au début de novembre 2025, Trump a soulevé l'indignation en graciant de manière préventive 77 de ses alliés, dont son ex-avocat, Rudy Giuliani, et son ex-chef de cabinet, Mark Meadows. Les deux hommes sont traqués par la justice pour avoir joué un rôle central dans la tentative de renversement des résultats électoraux de 2020 par Donald Trump. Cela envoie un message à la base du mouvement MAGA. Si vous commettez des crimes au nom de Donald Trump, le gouvernement va vous soutenir, avait alors déclaré sur les ondes de la radio publique américaine Liz Hoyer, ancienne avocate spécialisée dans les grâces présidentielles aux États-Unis, limogée par Trump en mars 2025. Tout en affirmant vouloir corriger les abus de pouvoir exercés par le gouvernement précédent, le président a soustrait plusieurs républicains de premier plan des mailles de la justice et des milieux carcéraux en accordant des grâces à Michele Fiore, ex-conseillère municipale de Las Vegas, surnommée Lady Trump, condamné pour fraude au printemps 2025, mais aussi l'ancien député de New York, Michael Grimm, l'ex-gouverneur du Connecticut, John Rowland, et l'ancien gouverneur démocrate de l'Illinois, Rod Blagojevich, ancien participant de l'émission de Celebrity Apprentice, présentée par Trump dans le temps. Le roi et ses faveurs. Nous sommes en train de revenir à un modèle monarchique, couplé à un culte de la personnalité, commente le constitutionnaliste Eric Friedman, joint par Le Devoir à l'Université Hofstra. Les favoris du roi bénéficiaient de ses faveurs. En février 2025, une grâce accordée à l'homme d'affaires Paul Wolczak, condamné pour fraude fiscale, avait commencé à éveiller les soupçons sur cette corruption en train de s'installer dans cet univers. Sa mère, Elisabeth Fago, trumpiste de la première heure, avait fait un don $1 million aux populistes lors d'un gala bénéfice organisé par le président. C'était quelques jours à peine avant qu'il n'accorde sa clémence aux criminels. Et cette pratique est à craindre sérieusement, selon l'organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW, qui documente les nombreuses dérives de la nouvelle présidence Trump, dont celle alimentée désormais par un détournement de plus en plus flagrant du régime des grâces. Partout dans le monde, les régimes autoritaires ont popularisé le recours à la tactique du salami, grignotant la démocratie petit à petit afin de consolider leur pouvoir et d'éroder graduellement les garde-fous, écrivait-elle dans un récent rapport. Comme ce processus est graduel, il est facile d'oublier les actions antidémocratiques datant d'une semaine, un mois ou un an et, par conséquent, ce qui aurait été considéré comme inacceptable quelques années auparavant, finit par se normaliser. C'était la face cachée de l'autoritarisme au royaume de Donald Trump, un texte de Fabien Deglise, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir.
Les premiers acheteurs jugent l'achat d'une propriété hors de portée, selon un sondage. Un texte d'Alex Fontaine paru le 4 décembre 2025 dans Le Devoir. L'achat d'une première propriété peut être une expérience anxiogène. En effet, plus de la moitié des premiers acheteurs jugent le processus d'achat hors de portée, selon un sondage de la banque Scotia dévoilé récemment. Parmi les points qui préoccupent les primo-accédants, on trouve notamment l'abordabilité, 56 %, l'incertitude par rapport à l'avenir, 47 %, et la peur de prendre une mauvaise décision, 43 %. Ces chiffres sont tirés d'un sondage en ligne mené par la firme Harris Poll Canada entre le 24 et le 26 septembre 2025 auprès de 3064 adultes canadiens. S'ajoute à ces préoccupations le contexte économique qui mine les projets d'achat des Canadiens. Plus de la moitié des premiers acheteurs prévoyant un achat au cours des 5 prochaines années estiment qu'il est hors de portée pour le moment, 53 % et 62 % affirme que le contexte économique actuel a un impact négatif sur leurs finances et retarde leurs projets, lit-on dans un communiqué détaillant les résultats du coup de sonde. Le climat d'incertitude n'est probablement pas étranger au fait que 43 % des premiers acheteurs tiennent compte de la stabilité d'emploi pour prendre des décisions en matière de prêts hypothécaires, contre 28 % de la population dans son ensemble. Besoin de conseils. Les premiers acheteurs placent la clarté et l'accompagnement au sommet de leurs besoins lorsqu'ils font leur premier pas vers la propriété, écrit Matthew Gray, vice-président à la Banque Scotia. C'est d'autant plus vrai que 92 % des premiers acheteurs trouvent le processus de recherche d'un prêt hypothécaire déroutant, une proportion supérieure à celle dans la population canadienne en général, 68%. Dans les circonstances, la moitié des premiers acheteurs se tournent vers leurs proches pour obtenir des conseils, mais 27% pointent encore le manque d'accompagnement et de conseils fiables comme un obstacle à l'achat d'une maison. Il y a aussi 67% des premiers acheteurs qui veulent plus d'informations accessibles et faciles à comprendre sur les bases de l'accès à la propriété. Au Québec, nous observons un niveau de confiance encore plus élevé par rapport aux autres régions, indique par communiqué le vice-président régional à la Banque Scotia, Vincent Désiel. En effet, plus qu'ailleurs au Canada, les Québécoises et Québécois sont plus susceptibles de chercher à obtenir les conseils de spécialistes en prêts hypothécaires. C'était « Les premiers acheteurs jugent l'achat d'une propriété hors de portée, selon un sondage », un texte d'Alex Fontaine paru le 4 décembre 2025 dans Le Devoir.
Itinérance. La ministre Bélanger veut simplifier la machine. Un texte de Pierre-Alexandre Bolduc, publié le 2 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada. La nouvelle ministre responsable des services sociaux, Sonia Bélanger, veut alléger la bureaucratie associée aux services en itinérance. Elle espère pouvoir faire descendre les 5 millions de dollars annoncés lors de la mise à jour économique de la semaine dernière le plus rapidement possible sur le terrain, avant les grands froids. Madame Bélanger, qui a hérité du dossier depuis le départ inattendu de son ancien collègue Lionel Carman à la fin du mois d'octobre, promet que l'argent servira dans le court terme, ici et maintenant, pour des lits et des places supplémentaires dans les haltes chaleur. Le 5 millions, c'est vraiment pour les mesures hivernales. C'est de faire en sorte que les personnes qui sont en situation d'itinérance ne se retrouvent pas sur le trottoir durant la période hivernale. C'est inadmissible, lance-t-elle. En pleine tournée des refuges et des ressources dans les régions de Montréal et de Québec, Sonia Bélanger constate aussi une lourdeur administrative associée au financement gouvernemental pour les organismes. Comme ministre, je n'ai pas besoin d'avoir des redditions de comptes de 15 pages et de 50 pages, illustre la ministre. J'ai besoin de voir que, concrètement, sur le terrain, on va avoir desservi plus de personnes et accueilli plus de personnes dans nos haltes chaleurs. La ministre donne l'exemple de la cinquantaine d'organismes impliqués dans la lutte contre l'itinérance dans la ville de Québec. « Je veux simplifier. On est dans une crise de l'itinérance. Je me dis, faisons confiance à nos partenaires et à nos organismes. Ils savent comment faire. » À qui la responsabilité ultime du dossier de l'itinérance? Reste que la structure des divers ordres et intervenants impliqués dans les services à l'itinérance demeure compliquée. Il y a le gouvernement, les villes, le réseau de la santé et les organismes. La coordination et les responsabilités de chacun sont parfois difficiles à démêler. Je porte la responsabilité et j'en assume toute l'ampleur, explique la ministre Bélanger. Mais c'est une responsabilité partagée. Elle promet que le gouvernement Legault continuera d'aider les municipalités financièrement devant une crise de l'itinérance qui s'amplifie, reconnaît-elle. Sonia Bélanger est aussi convaincue que les CIUS et les CIS sont des acteurs incontournables en matière de fourniture des services psychosociaux spécialisés et professionnels sur le terrain pour aider les gens à se sortir de la rue. C'est clair que je reconnais qu'il y a un besoin de ressources, ça, je le reconnais. On va être au rendez-vous. De l'aide trop tardive? Pourquoi est-ce que cette aide-là arrive le 24 novembre? On a eu une bordée de neige et les refuges ont déjà refusé des centaines de personnes dans les dernières semaines, lance le porte-parole de Québec solidaire en matière de services sociaux, Guillaume Clich-Rivard. Le député de Saint-Henri-Sainte-Anne craint que l'argent ne descende pas assez rapidement sur le terrain pour ouvrir des places alors qu'il fait déjà froid. Il déplore que les 5 millions de dollars annoncés ne soient qu'un plaster dans l'urgence et demande à ce que les enveloppes soient pérennisées pour aider les organismes dans leur planification. On va manquer de place, c'est certain. Il manque au minimum 500 places d'urgence à Montréal cet hiver. Le bureau du coroner nous a dit que l'année dernière, au Québec, c'est 108 personnes qui ont perdu la vie en situation d'itinérance. Il n'y a personne qui devrait mourir de froid au Québec, insiste-t-il. Entre-temps, lundi, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a annoncé la mise sur pied d'une cellule de crise en itinérance et l'ajout de 500 nouvelles places en halte chaleur d'ici Noël. Inquiétude dans les refuges devant une demande qui explose. À l'Aube-Rivière, le plus important refuge de la ville de Québec, le directeur général Éric Boulay constate que la fin de l'automne a déjà les allures de l'hiver. Déjà, au début du mois de novembre, le refuge a dû refuser d'accueillir une vingtaine de personnes, faute de place. C'est à bout de bras que les organismes tiennent ce filet social-là, lance Éric Boulay. C'est très mince, dans le sens où on est capable d'absorber actuellement la demande. Est-ce qu'on va être capable de le faire à long terme? L'histoire nous le dira. Le nombre de demandes d'aide à l'Aube-Rivière a doublé en 5 ans. Le refuge a accueilli au cours de la dernière année plus de 5 000 personnes différentes. C'est une augmentation qui est fulgurante, malheureusement. Et ce qui est étonnant, c'est que l'an dernier, 75% des demandeurs étaient des personnes qui n'avaient jamais connu l'itinérance et qui n'avaient jamais frappé à la porte d'un refuge, souligne M. Boulay. C'était Itinérance, la ministre Bélanger veut simplifier la machine, un texte de Pierre-Alexandre Bolduc, publié le 2 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada.